Nous sommes à la fois heureux de voir que François Hollande enfin visite les soins palliatifs, les encourage, indique qu'il faut qu'ils se développent, note qu'ils sont extrêmement insuffisants encore dans notre pays, qu'il faut que vraiment cette culture palliative se développe. Et là, on peut saluer cette prise de position. Mais dans le même temps, nous avons noté aussi une assez grande ambiguïté au travers des questionnements qu'il pose, cette expression qu'il a utilisée de « acte médical assumé », sans dire le mot euthanasie, mais derrière cette idée d'un acte médical assumé, qui est le questionnement visiblement qu'il a aujourd'hui, c'est bien la piqûre mortelle qui serait en débat à un moment ou à un autre. Le fait que Didier Sicard soit choisi, c'est pour nous neutre. Didier Sicard est un professionnel et un éthicien connu en France, répertorié, voilà. On espère bien surtout que cette mission aboutira sur un déploiement de la culture palliative, qui est très mal connue encore dans notre pays, insuffisamment développée au travers des moyens, de la formation, etc. Et que ne sera surtout pas franchie cette ligne rouge de l'euthanasie au travers de l'exception.
En lançant cette mission de réflexion sur la fin de vie, en accueillant à l'Élysée le cardinal 23, vous avez le sentiment que le gouvernement a véritablement pris la mesure de la complexité de ce dossier et qu'il s'agira d'entamer une réflexion profonde.
On a le sentiment qu'en tout cas l'exécutif est un peu gêné aux entournures. La proposition numéro 21 du candidat Hollande était déjà particulière car elle évitait soigneusement de parler d'euthanasie. Il a à nouveau exprimé qu'il ne voulait pas en parler, même si les périphrases peuvent être dangereuses. Et nous, à Vita, on se dit que c'est le moment de toute façon de débattre en profondeur, de montrer les conséquences qu'aurait une loi sur l'euthanasie, de bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas des soins palliatifs puis de l'euthanasie, de l'un et l'autre, mais c'est vraiment l'un ou l'autre. Et c'est ce que dit bien la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, que ces deux pratiques sont incompatibles. Et nous pensons que l'exécutif, effectivement, et aujourd'hui hésite et qu'il imagine, sans doute, je le pense, ouvrir la porte à quelques exceptions. Et c'est sur ce point que Vita sera très vigilant, car nous savons que dans ce domaine, les exemples belges et hollandais l'ont montré, on ouvre toujours la porte aux plus graves transgressions au principe d'humanité par l'exception. Et puis l'exception n'a l'air de rien, ça finit par devenir largement la règle pour les plus fragiles, et ça on n'en veut pas pour la France.
Vous avez le sentiment que la question de la fin de vie est trop souvent abordée de façon idéologique, très loin des réalités?
C'est vrai, mais je remarque aussi qu'on nous reproche, à nous, à Alliance Vita, de l'aborder de façon idéologique, en nous mettant, je dirais, assez vite une sorte de déguisement dogmatique, alors que nous sommes engagés, je suis personnellement, au travers de SOS Fundy, de l'accompagnement des personnes. Et donc, ce n'est pas une question, au départ, de principe, éthéré, c'est une question de pratique. Quand on accompagne les personnes, lorsqu'on les écoute, lorsqu'on prend soin d'elles, eh bien, la question de l'euthanasie tombe d'elle-même. C'est le plus souvent les proches qui la demandent, d'ailleurs. Et les proches, quand ils voient que le patient est bien pris en charge, bien accompagné, qu'il n'est pas abandonné, qu'ils sont soutenus, à ce moment-là, l'euthanasie n'intervient pas. Effectivement, moi, je vois dans la promotion de l'euthanasie une forme d'idéologie qui est celle de la toute-puissance. Face à cette culture de la vulnérabilité qui est la seule propre à humaniser la société, c'est l'idée qu'un homme, qu'une communauté humaine pourrait décider de quand une personne est digne de vivre ou quand elle n'est plus digne de vivre. Et cette violence-là, de cette culture de la toute-puissance, elle est extrêmement idéologique parce que aucun d'entre nous n'est totalement autonome, on est interdépendants les uns des autres. Et c'est souvent dans des moments de fragilité et de vulnérabilité que ces relations, malgré la souffrance, la peine morale qui doivent être bien sûr accompagnées, que les relations les plus belles peuvent être entretenues. C'est la belle leçon que nous donnent ceux qui sont proches de la mort, qui est souvent de nous entraîner à des valeurs plus justes, plus ajustées sur ce qu'est un être humain, c'est-à-dire une personne toujours digne.